Bonjour à tous. Après le rapport Sauvé, l'Église de France a annoncé qu'elle allait indemniser les victimes de prêtres pédophiles. Mais avec quel argent? Bonjour Laetitia Chérel.
Bonjour Jacques.
Vous avez découvert que le diocèse de Paris possède près de 700 millions d'euros de biens immobiliers, parfois luxueux, à travers une nébuleuse de sociétés qui rapportent de l'argent, mais qui ne figurent pas dans ses comptes.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Les évêques de France ont décidé d'abonder ce fonds que nous avons ouvert depuis le mois de septembre, autant qu'il est nécessaire, en se dessaisissant de biens immobiliers et mobiliers de la conférence des évêques ou des diocèses.
Voilà, ça c'était le 8 novembre dernier, le président de la conférence des évêques de France annonce que l'Église a décidé de vendre certains de ses biens. Une commission qu'on appelle l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation va bientôt entendre les victimes d'abus sexuels pour évaluer leurs préjudices. Et quand on entend ça, on se dit alors, Laetitia Chérel, que la position de l'Église a considérablement évolué.
Oui, rappelez-vous, jusqu'à ce lundi 8 novembre à Lourdes, il était encore question de faire appel au don des fidèles. Et cette décision était parfois mal perçue par certains qui ne voulaient pas payer, disaient-ils, pour les erreurs de la hiérarchie. Alors après l'onde de choc du rapport de Jean-Marc Sauvé, les évêques ont entendu la grogne et décidé qu'il en coûterait à l'Église elle-même. Pour cela, un fonds d'indemnisation des victimes a été créé.
Et un fonds qui sera alimenté comment ?
Eh bien par la vente de biens, voire même par un emprunt. Mais pas question de prendre sur les ressources de fonctionnement, comme l'explique Ambroise Laurent, chargé des questions économiques, financières et juridiques à l'Épiscopat.
Ce qui est clair, c'est que les ressources courantes de l'Église, le denier, les quêtes, le casuel, tout ça c'est pour la mission. Et donc on ne va pas utiliser ça, puisque de toute façon, par principe, c'est dédié à l'évangélisation, à la pastorale, au culte, à la catéchèse, et de toute façon, on n'en a même pas assez pour couvrir nos charges. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller voir, dans un examen assez complet, méthodique, tout ce que nous pouvons céder. Quand vous avez une salle paroissiale qu'on n'utilise que deux fois par mois, il faut peut-être changer un peu de système, regrouper et potentiellement céder la salle. Donc on va forcément s'appauvrir. C'est clairement le terme qui a été utilisé par les évêques. Il s'agit de se dessaisir de biens immobiliers ou mobiliers qui ne sont plus essentiels.
Et ces biens, on va les trouver où ?
Dans les diocèses, mais comme certains sont moins dotés que d'autres, il y aura un principe de solidarité, comme l'a annoncé à Lourdes le président de la Conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort.
Notre décision depuis le début, c'est que nous portons tous ensemble ces cas. C'est-à-dire que ce n'est pas chaque diocèse qui s'occupe de ces criminels. Et par conséquent, la solidarité entre les diocèses plus riches et les diocèses pauvres jouera pleinement.
Mais alors, quels sont les diocèses riches et les diocèses pauvres ?
Alors, parmi les diocèses qui sont en difficulté, et il y en a beaucoup, on trouve celui de Troyes, de Saint-Denis ou encore de Pontoise. Les diocèses riches sont, eux, par exemple, plutôt dans l'ouest de la France et en Île-de-France, comme Versailles ou Paris.
Mais même les diocèses pauvres, Laetitia, ils ont quand même des églises avec des tableaux, des œuvres d'art, des sculptures, non ?
Alors, détrompez-vous, Jacques, ce n'est pas là qu'est la richesse de l'institution. Car en fait, elle ne possède pas la plupart de ses églises, comme le rappelle Ambroise Laurent de la Conférence des évêques.
Toutes les cathédrales, tous les trésors qu'il y a dedans, tout le grand manteau des églises dans les 36 000 communes rurales de France, en 1905, l'État en a repris intégralement le contrôle et la propriété. Donc, de fait, les biens de l'Église, ce sont les biens qui ont été mis en place, construits après 1905. Tout ce qui est avant 1905 est propriété de l'État, des communes pour les églises, de l'État pour les cathédrales. Ça concerne les tableaux qui sont dans la petite église de Saudois, pour prendre un exemple que je connais, et le trésor de la cathédrale de Strasbourg. Donc tout ça, c'est propriété de nous tous.
Ouais, de nous tous, donc de l'État, mais pas de l'Église.
Oui, et sur 42 000 églises et chapelles, 95% appartiennent à l'État ou aux communes.
D'accord, donc c'est pas là qu'on trouvera de l'argent.
Non, mais en fait, c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas d'église avec un grand E. Il y a plusieurs entités indépendantes les unes des autres. Vous avez les diocèses qui vont indemniser leurs victimes, et puis les congrégations religieuses, comme les jésuites par exemple, qui vont indemniser les leurs, et chacun puisera dans ses propres ressources. Écoutez ce qu'en dit Nicolas Senez, qui est journaliste au service économique de La Croix.
pour les biens comme pour l'organisation générale, l'Église est extrêmement éclatée. Chaque diocèse est indépendant. Il a des biens qui lui appartiennent en propre. Il y a les congrégations religieuses qui ont aussi leurs propres biens. Chacune est indépendante. Elles ont des biens qui servent pour elles-mêmes. Elles ont des collèges, des lycées, des écoles aussi, qui sont parfois aussi indépendantes pour leurs biens. Donc tout ça est très compliqué, très divers. Il y a la Conférence des évêques de France, propriétaire de son siège à travers une association qui lui est propre. Et puis il y a le Vatican aussi, qui a ses propres biens. En France, il y a une quinzaine d'immeubles à Paris qui sont propriétés d'une société qui est détenue par le Vatican. C'est une espèce d'un émiettement, des confettis qui peuvent faire beaucoup d'argent. Hein.
Alors je précise qu'il n'est pas question, en tout cas pour le moment, que le Vatican participe au financement de l'indemnisation des victimes en France ni ailleurs.
D'accord, donc c'est l'Église de France qui devra se débrouiller toute seule. Mais si j'ai bien compris, Laetitia, des biens de valeur, l'Église en possède donc, mais ce sont ceux qu'elle a acquis après 1905.
Oui, et avec les transformations économiques du siècle dernier, l'Église s'est implantée dans des nouveaux quartiers. Et ces bâtiments ne sont pas allés dans le giron de l'État, comme le rappelle encore Ambroise Laurent de la Conférence des évêques.
L'Église a dû construire depuis 1905, à la faveur des changements considérables que la France a connus avec toute l'urbanisation, elle a dû construire des églises, des chapelles, des salles paroissiales, des salles de patronage, des logements de prêtres, dans toutes les nouvelles zones qui étaient habitées.
D'accord, donc des bâtiments qu'on pourrait vendre, il y en a bien.
Oui, mais ceux-là, en l'occurrence, d'abord, l'Église en a besoin parce qu'ils servent à faire la messe, à loger les prêtres et puis à faire le catéchisme. Et puis, ils ne valent pas grand-chose. En revanche, il y a un vrai potentiel ailleurs.
C'est-à-dire ?
Eh bien, l'Église possède un véritable patrimoine immobilier constitué d'immeubles ou d'appartements qu'elle loue et qui lui rapportent de l'argent. C'est ce qu'on appelle les immeubles de rapport.
Et comment elle les a acquis, ces immeubles ?
La plupart ont été légués par des grandes familles ou par des prêtres fortunés, comme l'explique Ambroise Laurent.
Il y a quelques immeubles de rapport, les fameux immeubles de rapport, qui permettent, qui ont été construits en même temps que les locaux paroissiaux pour trouver des ressources pour financer une partie de l'entretien des locaux paroissiaux ou de l'église. Donc quelques revenus financiers, des legs, nous avons des legs, et enfin des cessions d'actifs. Nous, chaque année, nous cédons une partie du patrimoine que nous n'utilisons plus et ceci nous remet à peu près à l'équilibre.
Ah, donc chaque année, l'Église vend des biens.
Ben oui, certains diocèses ont commencé à vendre leurs bijoux de famille, hein, comme on dit familièrement, parce qu'en 10 ans, l'Église a perdu 200 000 donateurs. Or, les dons sont la première ressource des diocèses. Mais dans le diocèse de Paris, le plus riche de France, il y a encore de la réserve. Mais ça, on ne le voit pas dans ses comptes officiels.
C'est-à-dire ?
Eh bien, il existe toute une flopée d'immeubles qui sont loués, donc qui rapportent de l'argent et qui, en fait, ne devraient pas exister. C'est Ambroise Laurent, le responsable économique de l'Assemblée des évêques, qui le reconnaît lui-même.
En 1905, l'État a interdit à l'ensemble des cultes de disposer d'immeubles de rapport. Alors, il se trouve qu'on en avait quand même, parce que quand on a construit des ensembles paroissiaux dans les banlieues nouvelles ou les nouvelles zones urbaines, on a parfois, pas toujours, construit quelques logements qu'on louait pour couvrir les dépenses d'entretien et de travaux dans l'église nouvelle, dans la salle du patronage ou la salle paroissiale. Et puis, on a reçu en legs, parfois aussi, des biens immobiliers. Et donc, ces biens immobiliers, ils sont en général logés, puisque les diocèses n'avaient pas l'autorisation de les détenir, dans des sociétés civiles immobilières, dans des associations immobilières, qui sont proches de la paroisse ou du diocèse.
Ah oui, donc il existe des immeubles qui appartiennent à des sociétés civiles immobilières, des SCI, qui du coup n'apparaissent pas comme des propriétés de l'Église.
C'est ça. Le système consiste à passer par ces SCI, dont des parts sont détenues par des structures associatives, les associations diocésaines. Et c'est de cette façon que l'Église catholique, comme les autres cultes d'ailleurs, a réussi à contourner cette interdiction. C'est ce que m'a expliqué Emmanuel Tawil, spécialiste du droit des cultes.
Quand il y a un legs, par exemple, il faut trouver un moyen pour que ce ne soit pas l'association cultuelle qui soit directement propriétaire de cet immeuble qui va produire du revenu. Ce qui suppose de trouver une autre solution. Ça peut être de vendre le bien et de garder l'argent issu du bien, c'est même ce qui devrait être la solution de droit commun. Ça peut aussi être de passer par une société civile immobilière ou par une autre association qui deviendra propriétaire de l'immeuble en question. C'est ce qui se passe pour tous les cultes et c'est une sorte de contournement légal.
Ouais, de contournement légal, c'est-à-dire que ces biens, ils appartiennent de fait et ils rapportent à l'Église, mais ils n'apparaissent pas dans ses comptes.
Effectivement, c'est une situation assez étonnante qui fait qu'aucun loyer provenant de ces immeubles n'apparaît dans la comptabilité des diocèses, comme le reconnaît encore Ambroise Laurent.
Chaque diocèse publie ses comptes au journal officiel chaque année. Donc tout est public. Mais le fait est que, comme nous n'avions pas l'autorisation d'acquérir des biens immobiliers, nous n'avons pas de consolidation des biens immobiliers que nous n'avons pas l'autorisation d'acquérir.
Même diocèse par diocèse.
Même diocèse par diocèse, puisque les diocèses avaient l'interdiction d'avoir des immeubles de rapport. Vous voyez, il y a un petit paradoxe à dire, d'un côté, la loi vous interdit d'avoir des immeubles de rapport, et de l'autre côté, vous avez des immeubles de rapport.
Ouais, petit paradoxe, mais est-ce qu'on sait où sont ces biens et combien il y en a, Laetitia ? Est-ce qu'il en existe un inventaire ?
Alors, un inventaire global de ce que posséderait l'Église de France, a priori pas vraiment.
Nous n'avons pas d'inventaire complet ici à la conférence. Nous ne sommes pas la holding des diocèses. Nous ne sommes pas non plus Google. On est beaucoup plus modeste dans notre système de gestion et nos besoins sont beaucoup plus modestes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas un tableau général de l'ensemble des biens de l'Église.
Donc, on ne peut pas savoir quel est le patrimoine réel de l'Église.
Alors, officiellement, non. Maintenant, à Paris, le diocèse le plus riche, il y a bien eu un inventaire, mais seulement il remonte aux années 90.
Et il disait quoi, cet inventaire ?
Eh bien, selon nos informations, on avait répertorié à l'époque plusieurs centaines de sociétés civiles immobilières. C'est ce que m'a raconté un ancien membre du diocèse dont nous avons fait lire les propos. Et selon cet inventaire, l'église disposait dans la capitale d'une véritable mosaïque d'immeubles.
Dans cet inventaire, outre les 115 paroisses et 115 services diocésains, comme par exemple les aumôneries d'hôpitaux, on trouvait aussi 600 structures juridiques différentes, des associations, des sociétés civiles immobilières et quelques fondations, etc. Parmi elles, un grand nombre détenaient un patrimoine immobilier et pour certaines, un patrimoine financier. Ces structures étaient contrôlées par l'Association diocésaine de Paris et par les paroisses, en particulier les paroisses très aisées des arrondissements du centre et de l'ouest de Paris.
Ouais, donc le diocèse a un très gros patrimoine à Paris.
Oui, et pour essayer d'identifier ces immeubles, j'ai cherché sur des sites spécialisés les mots « Association diocésaine de Paris » et « Association immobilière du diocèse de Paris ». Et là, je suis tombée sur une liste de plus de 80 sociétés civiles immobilières. La majorité est propriétaire d'immeubles d'habitation, d'autres de bureaux, quelques-unes d'écoles. J'ai ensuite trouvé le capital de ces SCI et les superficies des immeubles qu'elles gèrent.
Et ça donne quoi ?
Eh bien, j'ai additionné le capital de chacune de ces SCI et on arrive à un total de 166 millions d'euros.
Ah oui, 166 millions d'euros de biens immobiliers.
Oui, mais attention Jacques, on est très en dessous de la réalité de leur valeur puisque ces biens sont généralement sous-évalués de moitié dans ces SCI, si ce n'est plus. C'est le cas notamment du siège de Free, qui se trouve rue de la Ville-l'Évêque, à deux pas de l'église de la Madeleine, dans le 8e arrondissement. Cet ancien presbytère est détenu par une SCI au capital de près de 20 millions d'euros. Or, l'immeuble vaudrait aujourd'hui entre 137 et 156 millions d'euros, selon plusieurs experts immobiliers que j'ai consultés.
On passerait de 137 à 156 millions. Mais sur quoi ils se fondent, ces experts, pour arriver à un tel écart ?
Eh bien, ils ont travaillé sur ce qu'on appelle une base comparable. Ils ont essayé de trouver des ventes d'immeubles similaires dans un même quartier à celui qui est à estimer.
Oui, en utilisant cette méthode, Laetitia, vous avez fait évaluer d'autres biens.
Oui, notamment la résidence officielle de l'archevêque de Paris. Il s'agit d'un superbe hôtel particulier situé rue Barbet de Jouy, au cœur du très chic 7e arrondissement, à deux pas de l'hôtel Matignon. Un bâtiment qui a été légué en 1905 par une riche paroissienne pour que l'archevêque de l'époque y soit confortablement logé. Un ancien membre du diocèse de Paris qui a souhaité rester anonyme s'y est rendu à plusieurs reprises et il nous l'a décrit. Nous avons fait lire ses propos.
Derrière la très belle porte, à droite, la loge des gardiens, à gauche, des locaux dont une grande salle de réunion. Devant nous, une cour pavée et l'hôtel particulier de l'archevêque. Le rez-de-chaussée est occupé par des salons en enfilade. Au premier étage, l'appartement privé de l'archevêque de Paris, ainsi que son bureau et celui de ses secrétaires, son secrétaire particulier et ses collaboratrices pour le travail administratif. À l'arrière, un charmant jardin et à droite, communiquant avec un des salons, la chapelle privée de l'archevêque. Cet ensemble n'apparaît dans aucun des comptes publiés par le diocèse.
Bon, il est évalué à combien ce bâtiment ?
Eh bien, je l'ai soumis aux experts immobiliers. Ils l'ont estimé entre 52 et 65 millions d'euros.
Ouais, ce qui n'est pas rien. Et des biens comme celui-là, vous en avez identifié un autre dans le 8e arrondissement.
Oui, un immeuble de 6000 mètres carrés au 28 avenue Georges V, non loin des Champs-Élysées. C'est un terrain qui a été légué en 1877 par une richissime duchesse génoise, la duchesse Galliera. Elle avait au 19e siècle l'équivalent de ce qu'est la fortune de Bill Gates aujourd'hui.
Et il sert à quoi aujourd'hui cet immeuble ?
Il héberge un foyer de jeunes filles sur 4 étages, comme le souhaitait la duchesse. Mais il y a aussi 5000 mètres carrés loués comme lieu de séminaires et d'événementiels, avec un auditorium de 350 places, 11 salles de réunion et 92 places de parking.
Et sa valeur, c'est ?
Environ 142 millions d'euros. Donc, si on fait le total de tous ces bâtiments, on arrive déjà à 330 millions d'euros en fourchette basse. Et quand on additionne ce nombre aux 166 millions d'euros de capital des SCI, on arrive à près de 500 millions d'euros.
Et c'est, vous dites, une fourchette basse.
Oui, parce que je ne vous ai pas encore parlé de 4 autres immeubles situés dans les 7e, 15e et 12e arrondissements que j'ai fait évaluer. On arriverait donc à près de 700 millions d'euros.
700 millions d'euros. Et ça se vend facilement, ce genre d'immeuble ?
Alors, selon plusieurs agents immobiliers, oui. Écoutez ce que m'a dit cette experte parisienne qui a tenu à rester anonyme et dont nous avons fait lire les propos.
Ce type de bien peut trouver preneur facilement. Ce sont des biens qui soit procurent un rendement intéressant, soit des biens historiques, prestigieux. Sur ces deux segments-là, on a du monde. Si c'est bien géré, ça vaut plus cher que les estimations qu'on vous a données.
Oui, tout ça alors que l'Église, on l'a expliqué au début, n'a pas le droit officiellement de percevoir des revenus de l'immobilier.
Oui, c'est vrai. Alors, ça devrait évoluer parce que la loi contre le séparatisme va autoriser tous les cultes, donc l'Église catholique, à détenir des biens immobiliers, comme le précise Emmanuel Tawil, spécialiste du droit des cultes.
La loi sur le séparatisme est entrée en vigueur puisqu'elle est promulguée, mais les décrets sont en préparation. Et le texte de la loi prévoit la possibilité de posséder des immeubles de rapport pour les associations cultuelles. Il y a une limite prévue par la loi quant au montant de revenus par rapport aux ressources de l'association cultuelle. Il est fort probable que, tant pour les catholiques que pour les protestants, les israélites et les musulmans, l'application de la loi sur le séparatisme entraîne une clarification quant à la propriété immobilière.
Ouais, donc tout ça devrait se régulariser. Mais même dans la zone grise juridique actuelle, Laetitia, l'Église peut vendre certains de ses biens pour indemniser les victimes ?
Oui, sauf que c'est pas toujours si simple, parce qu'il y a des cas où ceux qui ont légué ces immeubles l'ont fait en imposant certaines contraintes, comme l'explique Nicolas Sénès du journal La Croix.
Quelquefois, ils mettent des conditions. Que tel bien, tel immeuble serve par exemple à des mouvements de jeunesse, à la pastorale de la jeunesse, ou pour aider les pauvres, ou bien simplement que ça serve à faire fonctionner l'église, à payer les prêtres par exemple. Donc tout ça fait que c'est à la fois un immobilier qui rapporte de l'argent, mais c'est aussi extrêmement fléché, c'est-à-dire que l'église ne peut pas faire n'importe quoi de ses biens, ce qui fait que, par exemple, pour payer les réparations en matière d'abus sexuels, des héritiers pourraient refuser pour pouvoir récupérer au moins en partie le bien pour le vendre et bénéficier pour eux-mêmes de l'argent.
Ah oui, donc il va falloir faire un tri entre les immeubles dont les héritiers pourraient contester la vente et les autres.
Eh oui, et c'est un gros travail de documentation des biens qui s'annonce, car il va falloir être attentif aux souhaits des légataires, comme le dit Ambroise Laurent de la Conférence des évêques.
Quand vous léguez un bien à une œuvre, qu'elle soit cultuelle ou laïque, vous devez respecter la volonté du légataire. Et c'est pour ça que nous allons avoir à faire un inventaire qui n'est pas juste collationner l'ensemble de ce que nous avons, mais vérifier bien par bien, ce dont nous avons la libre disposition. Nous n'avons pas la libre disposition de ce qui nous a été donné à des intentions spécifiques.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Alors, on a vu que le diocèse de Paris perçoit des revenus conséquents de biens immobiliers qui officiellement n'existent pas dans ses comptes. Mais on va maintenant voir, Laetitia Chérel, qu'il dispose aussi, ce diocèse, de placements financiers assez confortables.
Oui, parce que quand vous louez des immeubles, ça vous rapporte de l'argent. Et cet argent, s'il ne sert pas au fonctionnement de l'Église, eh bien, il faut le placer. Le diocèse de Paris a publié ses comptes pour l'année 2020 et il y précise les sommes qu'il a perçues. Et voilà précisément ce qu'on peut lire.
Les revenus financiers de 5 800 000 euros en 2020 résultent d'une distribution exceptionnelle provenant du patrimoine immobilier à vocation cultuelle et issu d'un leg, 1 700 000 euros, ainsi que des placements financiers. Avec un choix de support très diversifié, privilégiant la qualité et la performance à long terme, le portefeuille du diocèse a bien résisté dans un contexte de forte volatilité. Les ressources provenant de la gestion des actifs immobiliers, détenus à travers des sociétés civiles immobilières et des actifs financiers, sont en augmentation de 1 million d'euros comparativement à 2019.
Ouais, on croirait entendre un compte-rendu de la Bourse de Paris, là.
Ouais, c'est un peu vrai. Et vous ne croyez pas si bien dire, Jacques, parce que le diocèse de Paris s'est entouré de professionnels des placements financiers. C'est en tout cas ce que m'a expliqué cet ancien membre du diocèse dont nous avons fait lire les propos.
À la direction des affaires économiques de l'archevêché, plusieurs bénévoles, tous retraités et anciens dirigeants ou anciens directeurs financiers de grandes entreprises, gère, sous la direction du diocèse, les portefeuilles de valeurs mobilières détenus par l'archevêché dans plusieurs banques.
Et donc le diocèse est épaulé par des gestionnaires de portefeuilles.
Oui, et une autre source m'a confié qu'on avait aussi recours à des bénévoles diplômés de grandes écoles de commerce pour gérer cet argent.
Le diocèse de Paris semble d'ailleurs si compétent en matière de finances, Laetitia, qu'il a créé son propre placement financier, son propre outil de gestion.
Oui, et en l'occurrence, on a découvert qu'il avait créé sa propre SICAV, un dispositif qui assure la gestion d'un placement financier et qui, généralement, est adossée à une banque. Cette SICAV a un nom évocateur, porteur d'espérance. Elle avait 40 millions d'euros d'actifs en 2020, ce qui n'est pas une petite somme. Et pour la petite histoire, elle est domiciliée non pas à l'adresse du diocèse, mais à celle de l'archevêque de Paris. Écoutez ce qu'en dit ce spécialiste en placement financier dont nous avons fait lire les propos.
Si le diocèse a constitué une SICAV, ça veut dire qu'il dispose d'un outil de gestion financière. Quand on a beaucoup d'argent, c'est une manière de bien le gérer. Il est conseillé par une société qui gère les investissements selon des critères moraux définis par le diocèse pour contribuer par exemple au financement des missions d'évangélisation. Cela peut permettre aussi de capter les liquidités des associations diocésaines pour qu'elles ne restent pas inutilement sur des comptes bancaires non productifs.
Donc on pourrait aussi piocher dans cette SICAV ou dans d'autres placements pour trouver de l'argent pour les victimes ?
Alors, dans la SICAV, ça, c'est impossible à dire, mais dans les placements financiers, oui, c'est effectivement une des pistes privilégiées par le grand argentier de l'épiscopat, Ambroise Laurent.
Il sera bien évidemment plus simple, probablement, de regarder ce que j'ai en placement financier dont je peux me séparer, parce que c'est des réserves de sécurité, eh ben je vais les baisser, plutôt que d'aller essayer de vendre un immeuble, ce qui va prendre 6 mois, 1 an, et qui sera peut-être compliqué parce que l'immeuble sera utilisé pas uniquement à des fins de rapport, mais aussi à des fins pastorales. Donc, nous irons aux solutions les plus simples, qui n'atteignent pas les intentions des donateurs, qui n'atteignent pas la pastorale.
Et une de ces solutions simples, ce serait donc de piocher dans ses placements financiers. Maintenant, de quelle somme l'Église va avoir besoin pour indemniser les victimes ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants.
Steam engine, says she's coming, she won't let me down. She knows my days are numbered and she wrote the number down. Always had it for me, so get it here soon. Man, we're gonna dance, just look at her move, watch her move. Says I like it like that. Oh, she does. Steam engine. Rolling down the track,
rolling down the track.
Station bell ringing,
gotta hurry,
gotta hurry back. Steam engine, running out of steam,
running out of steam.
Go out with a bang now, yeah, that will be a scream. See my engine clean.
Steam Engine, machine à vapeur du blues rock dans la pure veine des années 60. C'était un titre extrait du prochain album du groupe américain Les Hills, dont la sortie est prévue pour le 28 janvier.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors maintenant qu'on a vu que le diocèse de Paris dispose de richesses invisibles dans sa comptabilité, on va essayer de comprendre comment les victimes vont être indemnisées. Et pour ça, Laetitia Chérel, il n'est pas inutile de regarder un peu ce qui s'est passé dans d'autres pays.
Oui, à commencer par les États-Unis où les premières affaires éclatent dans les années 80. Mais c'est surtout celle du diocèse de Boston en 2002 qui secoue l'Église catholique dans le monde entier. L'archevêque avait couvert les actes d'un prêtre récidiviste qui avait agressé 130 victimes. Mark Hartsrooney est le représentant du SNAP en Europe. Le SNAP, c'est l'Association américaine des victimes de prêtres. Il revient sur ces scandales et sur les montants qui ont été versés aux victimes.
Il y a eu sur les dernières décennies des milliers de poursuites aux civils qui ont débouché sur des indemnités totales de l'ordre de 3 milliards d'euros. Payé à environ 15 000 victimes. L'Église catholique aux États-Unis vend souvent des biens immobiliers et autres pour compenser les victimes. Le diocèse de Boston a dû payer des indemnités de 83 millions de dollars, ce qui revient à environ 200 000 euros d'aujourd'hui, payés à chacune des 550 victimes. Une somme, il faut bien le dire, beaucoup plus importante que celle pratiquée en Europe ou envisagé en France.
Ouais, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles que chez nous, là.
Et non, parce que là-bas, on parle de 15 000 victimes, alors que chez nous, sur 70 ans, la Commission Sauvé évalue leur nombre à 330 000, même si, évidemment, il ne s'agit que d'une estimation. Et puis, autre différence, aux États-Unis, l'affaire s'est réglée devant la justice, ce qui explique que les sommes allouées sont très importantes.
Et plus près de chez nous, il y a eu d'autres affaires de ce type.
Oui, en Irlande, en Allemagne, en Autriche, et en Belgique, où les premières affaires remontent aux années 90. C'est l'affaire de l'évêque de Bruges, accusé d'avoir agressé son neveu, qui déclenche un scandale immense en 2010. En 10 jours, 800 victimes présumées se manifestent. Une commission est mise en place par le Parlement belge. Elle rend un rapport avec 70 recommandations, dont la création d'un centre chargé d'arbitrer sur l'indemnisation des victimes. 620 dossiers lui sont alors communiqués. Et la suite, c'est Louis-Léon Christians, professeur à l'Université catholique de Louvain, qui la raconte.
Sur les 620 dossiers qui ont été soumis à ce centre d'arbitrage, 500 ont donné lieu à indemnisation et 120 n'ont pas donné lieu à indemnisation pour toute une série de raisons. Soit que la personne ne souhaitait pas être indemnisée, que ce n'était pas ça sa question, soit parce que les faits n'ont pas pu être suffisamment établis. Donc sur ces 500 dossiers, le remboursement total était d'environ 3 millions d'euros.
3 millions, ce qui fait une moyenne de 6 000 euros par victime.
Oui, on est bien loin des 200 000 euros par personne versés aux États-Unis. Mais comment on en arrive à de tels chiffres ?
Eh bien, le centre d'arbitrage belge a fixé un barème avec plusieurs catégories de préjudice.
La première catégorie, c'est l'attentat à la pudeur, sans violence ni menace. Et l'indemnité forfaitaire est de 2 500 euros. La catégorie numéro 2, c'est l'attentat à la pudeur commis avec violence ou menace ou sur donc un mineur de moins de 16 ans. Dans ce cas-là, la compensation financière peut aller au maximum jusque 5 000 euros. Et la troisième catégorie, c'est l'hypothèse du viol, pour un montant allant jusque 10 000 euros. Puis il y a une dernière catégorie qui a été très peu utilisée, donc une vingtaine de fois sur les 500 cas, qui estime que les comportements sont d'une gravité exceptionnelle ou commis pendant des durées, là aussi, exceptionnelles. Et la compensation maximale est de 25 000 euros.
Et il existe donc une cinquième catégorie pour des actes d'une gravité encore plus exceptionnelle, indemnisée à plus de 25 000 euros, mais elle n'a jamais été utilisée en Belgique.
25 000 euros pour des actes d'une gravité exceptionnelle, c'est pas un barème très important pour autant, mais où l'Église a trouvé l'argent pour financer ces indemnisations?
Eh bien, les diocèses ont chacun payé de leur côté, mais ils n'ont jamais communiqué sur l'origine de cet argent, donc on ne sait pas d'où il vient.
Et en France, donc, on va s'inspirer de quel modèle?
Eh bien, apparemment, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation qui vient d'être créée pourrait plutôt s'inspirer de l'exemple belge, mais tout ça reste à construire, explique sa présidente Marie Derain de Vaucresson.
Il y a des modèles, certes, notamment dans la justice civile ordinaire, desquels on pourra s'inspirer. Et parmi les membres de l'instance, d'ailleurs, il y a des profils de spécialistes de l'indemnisation qui pourront nous y aider. Notre commission ne va pas balader les victimes, c'est-à-dire qu'on recevra les demandes et puis on verra, en fonction de ce qui se construit ailleurs, comment on pourra orienter vers telle ou telle autre réponse pour satisfaire les demandes. Et puis après, il y a la question de l'estimation pure et simple pécuniaire, je vais le dire comme ça, auquel cas on sera vraisemblablement obligé de passer par un type de barème en fonction des violences subies et des barèmes de réparation pécuniaire en face, sur le modèle belge pour le citer.
Et sur les 330 000 victimes potentielles qu'on évoquait tout à l'heure, Laetitia, combien à l'arrivée pourront prétendre à être indemnisées?
Ah ben ça, c'est la grande inconnue, parce que ce sera à elle de se manifester auprès de l'instance. Marie Derain s'est d'ailleurs engagée à les recevoir dès le début de l'année prochaine, mais elle ne sait pas vraiment comment les choses vont se passer.
Moi, je crois que les demandes peuvent être extrêmement importantes, mais elles peuvent être aussi pas du tout à la hauteur de ce qu'on a imaginé comme projection, parce qu'il y a aussi des victimes qui ne veulent plus parler de ces questions-là, qui ont tiré un trait dessus, qui sont passées à autre chose et qui ne ressentent pas le besoin d'entrer dans une démarche de reconnaissance ou de réparation. Donc franchement, c'est un peu ce qui est vertigineux d'ailleurs. Quand on projette une organisation, on est incapable de savoir quel sera le nombre des personnes concernées.
À suivre donc. Maintenant, ce que cette instance indépendante a d'ores et déjà dit, Laetitia, c'est qu'elle souhaitait aller au-delà d'une simple indemnisation.
Oui, parce qu'il y aura bien sûr un aspect financier, c'est essentiel. Mais pour Marie Derain de Vaucresson, il faut aller plus loin vers ce qu'elle appelle une réparation, c'est-à-dire un accompagnement et une reconnaissance de la souffrance des victimes. Alors on le voit, l'Église a beaucoup évolué sur le sujet, et si elle a pu sembler pendant des années vouloir minimiser les faits, elle a fini par assumer sa responsabilité, comme si elle avait compris que de la résolution de cette crise profonde dépendait aussi sa survie.
Et on en restera là pour aujourd'hui. Merci Laetitia Chirel. Alors je précise que votre enquête, eh bien, on peut la réécouter, on peut la lire d'ailleurs ou la podcaster sur franceinter.fr, mais également sur l'appli France Inter. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique. Et à la technique, il y avait Florian Dorimini. Je vous souhaite un excellent week-end à tous.